questions par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Il est 14h03, et oui, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélier, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet important et rarement traité, les missionnaires et la colonisation. Les Indiens sont crédules et font le signe de la croix. Vos Altesses doivent en faire des chrétiens et convertir à notre sainte foi une multitude de peuples en gagnant ainsi de grandes richesses. Christophe Colomb, au souverain d'Espagne. D'histoire. Avant même l'installation des premiers colons espagnols et portugais dans le Nouveau Monde, les conquistadors y sont arrivés avec des missionnaires. Et la conquête et la colonisation de l'Amérique se sont faites en même temps que sa christianisation. Chacun d'ailleurs y trouvait son compte. Les missionnaires qui se servaient de l'expansion coloniale pour étendre leur religion sur tous les continents, et les puissances coloniales qui se sont servies des missionnaires pour justifier la violence de leurs conquêtes en Amérique et en Afrique. Christophe Colomb l'avait d'ailleurs bien compris. Avant de partir vers le Nouveau Monde, ils ne pouvaient obtenir le soutien du roi et de la reine d'Espagne qu'en leur promettant autre chose que de l'or.
Seigneur Colomb, en admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées?
Du négoce, votre Excellence.
Y a-t-il que cela qui vous intéresse?
Non. J'apporterai à ces gens la parole divine et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire.
Si le dessein de Dieu était de nous rapprocher de l'Asie, croyez-vous qu'il aurait attendu après vous pour le faire savoir au monde?
C'est le fils d'un charpentier qu'il a choisi pour se révéler au monde.
Ainsi donc, vous vous considérez comme l'élu?
Je dis qu'on peut rallier l'Asie par l'Ouest. Et je vous le prouverai.
Claude Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre livre, Mission chrétienne et colonisation, commence justement au début de la découverte de la colonisation de l'Amérique, comme si, au fond, les missions, les missionnaires, n'existaient que depuis cette époque. Or, vous le rappelez aussi, c'est antérieur, le mot mission, la vocation des missionnaires sont antérieures, bien sûr, à la colonisation. On peut dire d'une certaine manière que les apôtres étaient, en quelque sorte, les premiers missionnaires.
C'est en tout cas comme ça qu'on va les désigner, qu'on les désigne aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on fait une histoire de la mission, on remonte aux origines de l'Église. Mais s'il est bien vrai qu'il y a toujours eu des gens qui ont voulu répandre le christianisme, et c'est ce qu'on appelle alors l'évangélisation, le mot de mission dans son sens technique, celui que je retiens dans cet ouvrage, n'est vraiment apparu qu'au XVIIe siècle, donc beaucoup plus tardivement que ce qu'on pourrait imaginer.
Parce qu'il vient, vous le rappelez, du mot du latin mitere, qui veut dire envoyer. Au fond, c'était l'envoi des apôtres, enseigner toutes les nations, baptiser les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est l'évangile de saint Matthieu, et c'est bien là.
Absolument. Longtemps, ça a été un terme exclusivement théologique. Et voilà que, à partir du XVIe siècle, il s'organise des sociétés et puis tout un système qui va se spécialiser dans l'évangélisation et qui va donner naissance à la mission telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Il y avait d'autres, je ne sais pas si on les appelait des missions déjà, mais il y avait des ordres religieux comme les franciscains, comme les dominicains, qui étaient chargés, missionnés, si je puis dire, pour non pas pour convertir, mais pour éloigner de l'hérésie les chrétiens, par exemple les cathares.
Absolument, mais le terme de mission n'était pas employé, très curieusement. On en employait d'autres qui étaient équivalents.
Alors on va l'employer donc, vous le rappelez, à l'époque des grandes découvertes. D'ailleurs, quand Colomb part, non pas en Amérique, parce qu'il ne sait pas du tout que l'Amérique existe, il part, on l'a entendu dans l'extrait de film, vers l'Asie, par une autre route, vers l'Ouest, il tombe sur un nouveau continent, mais il ne vient pas seulement, comme on le croit parfois, avec uniquement des conquistadors, des soldats, des marins, il vient aussi avec des missionnaires, Claude Prudhomme.
Absolument, parce que pour les gens de cette époque-là, il est impossible de dissocier à la fois l'action militaire, l'action commerciale, car ils vont aussi pour chercher des épices au départ, et puis l'action religieuse. Et notamment les souverains sont profondément pénétrés d'avoir à accomplir sur Terre une mission, on pourrait employer le terme tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui est donnée par Dieu, et qui leur est aussi donnée plus concrètement par le pape, puisque c'est au nom du pape qu'un certain nombre de territoires leur sont confiés.
Oui, parce que quand ils arrivent, quand Colomb arrive sur le continent américain, il en prend possession au nom des souverains d'Espagne, des rois de Castille et d'Aragon, et de la reine de Castille et du roi d'Aragon, mais aussi au nom du Christ. Il est même envoyé par le pape, entre autres, et pas seulement par les souverains espagnols.
Pas seulement par les souverains espagnols, absolument.
Alors là, en même temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent, qu'ils vont s'installer progressivement, ils convertissent les Indiens d'Amérique, qui n'avaient jamais entendu parler, évidemment, de la religion des Espagnols. C'est ce que vous appelez le requerimiento, hein, c'est ça?
Ah voilà, alors il y avait normalement, d'après les récits des voyageurs de l'époque, tout un rituel ou un rite qui était prévu au moment où les équipages débarquaient, qui était une manière de proposer aux populations de passer sous le gouvernement de la puissance espagnole, et en plus qui leur demandait de bien vouloir se convertir. Alors, c'était évidemment, probablement pour eux complètement, même sûrement pour eux complètement incompréhensible. On n'est pas certain que ce rituel ait toujours été respecté, mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. C'est-à-dire que théoriquement, on ne se présente pas comme une sorte de domination imposée, mais comme une proposition. Mais comme si on refuse la proposition, la domination vient quand même, évidemment, le résultat n'est pas différent.
Alors, on l'a vu, la conversion des Indiens sert à justifier la colonisation, mais les missionnaires savent aussi très vite l'a condamné dans ses méthodes, cette colonisation, comme le fit un célèbre dominicain qui fut aussi le premier prêtre ordonné sur le continent américain, Bartolomé de Las Casas.
Frère Bartolomé, vous avez la parole.
Éminence, depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. Vivants. Je l'ai vu. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles. Tous massacrés. Le sang ruisselait de partout.
Vous étiez présent ?
J'étais le romonier.
Juste avant cette musique sacrée du 17e, composée par un Espagnol en Amérique latine, Claude Prudhomme, on a entendu un extrait du film de Daniel Verrugue, La controverse de Valladolid, avec Jean-Pierre Mariel dans le rôle d'un dominicain étonnant, dont vous parlez dans votre livre, Bartolomé de Las Casas, qui était le premier prêtre, à condamner la colonisation, parce qu'il l'avait vu, parce qu'il avait vécu de près.
Alors, il n'est pas le premier à la condamner, mais il a un itinéraire tout à fait particulier qui va lui donner aussi un poids extraordinaire. C'est que il a expérimenté lui-même, ayant accompagné son père, ayant été propriétaire à la suite de son père d'une de ses propriétés où il y avait des Indiens qui étaient sous domination, le système colonial. Et puis, devenu prêtre, un beau jour, il s'est converti une deuxième fois, d'une certaine manière, en découvrant qu'il n'était pas possible de continuer à vivre dans le système colonial et à être prêtre. Et il est rentré chez les Dominicains et il est devenu le principal apôtre en même temps de la défense des Indiens, de la dignité des Indiens, de leurs droits, y compris de leurs droits à la propriété, et également un des principaux opposants à la politique de conquête coloniale. Alors, c'est tout à fait étonnant comme épisode parce que Las Casas a à la fois cet avantage extraordinaire de connaître les choses de l'intérieur et de pouvoir les théoriser et de poser les deux questions fondamentales qu'on n'a peut-être pas complètement réglées. C'est le droit d'abord à la conquête coloniale. Au nom de quoi va-t-on dans des populations, chez les populations pour leur imposer un autre ordre politique? Et puis, deuxième question, est-ce que la mission, il y a une autre question, peut profiter, utiliser cette conquête coloniale pour diffuser le christianisme? Deux questions qui, évidemment, vont être récurrentes pendant plusieurs siècles.
Alors, deux questions que se pose aussi un autre ecclésiastique, un théologien moins connu, mais contemporain de Las Casas, moins connu que lui, c'est Francisco de Vitoria, qui, lui, ne dénonce pas seulement les méthodes de la colonisation, mais qui dénonce, lui aussi, les justifications que l'on invoque. Qu'est-ce qu'on invoque comme justification, justement, pour dire, c'est très bien, il faut coloniser, qu'est-ce que l'Église peut invoquer? On dit souvent, au fond, elle apporte la civilisation à des sauvages avec des vices épouvantables. Ils sont anthropophages, ils pratiquent les sacrifices humains et l'idolâtrie. Et Vitoria dit non, c'est pas une justification suffisante pour expliquer, pour permettre, pour autoriser l'émission.
Alors, lui, Vitoria, est aussi un dominicain, mais c'est un théologien, c'est un intellectuel, un des grands intellectuels de l'époque, et il va essayer de réfléchir au niveau, on dirait aujourd'hui, du droit international. Qu'est-ce qui donne à des gens qui viennent d'un pays le droit d'intervenir dans un autre? Et la réponse qu'il va élaborer est en deux parties. La première est une critique radicale de toutes les raisons qu'on donnait à son époque de coloniser et d'évangéliser par la force. Mais, à un moment donné, il faut qu'il trouve une sortie, j'allais dire, parce qu'on est à l'époque de Charles Quint aussi. Et alors, la sortie qu'il va trouver est double. La première consiste c'est-à-dire, on peut intervenir dans un pays extérieur au nom du droit de ce qu'il appelle de communication. On dirait aussi bien aujourd'hui le droit d'échanger des produits, des biens, des gens, etc. La liberté de commerce et de circulation, pour traduire en termes modernes. Et la deuxième raison, au nom de la liberté religieuse et de prédication. Mais où sa réponse finale est un peu ambiguë, c'est qu'il donne le droit d'intervention, mais il ne dit jamais que cela, en même temps, doit s'accompagner du droit de rester. Surtout un temps indéterminé. Il est très prudent, en fait, dans ses affirmations. Et il est à la source, finalement, et du droit international, et, on peut dire, de toute la réflexion ultérieure sur la légitimité de la colonisation.
Disons que Las Casas, comme Vitoria, condamne les excès, les abus de la colonisation, mais pas la colonisation, en tout cas pas explicitement. Quid également d'un autre problème grave qui accompagne la colonisation, notamment en Amérique, c'est l'esclavage, parce que évidemment un chrétien ne peut pas être un esclave. Or il se trouve que justement les missions, leur rôle, c'est de convertir les Indiens. Quelle était la position justement des missions par rapport à l'esclavage?
Alors sur la question de l'esclavage, justement à la suite de Las Casas, la papauté l'a très nettement interdit l'esclavage des Indiens. Le problème, c'est que du coup, on va tolérer celle des Africains.
Qu'on va faire venir.
Qu'on va faire venir, et c'est la fameuse traite des Noirs.
Alors, petit à petit aussi, on va voir que l'Église va chercher à se détacher de la tutelle assez pesante des États avec lesquels, avec lesquels elle a participé à la colonisation de l'Espagne, du Portugal, en créant en 1622 la Congrégation pour la propagation de la foi, qu'on a aussi appelée, avec un mot peut-être un peu malheureux aujourd'hui, la propagande. Ça, c'est une congrégation qui était chargée au fond d'envoyer des missions à l'étranger, et ces missions étaient sous la tutelle de l'Église, cette fois-ci du Vatican, et non plus des États colonisateurs, c'est ça?
Absolument, c'est-à-dire quand la papauté a fait le bilan de l'action précédente, elle s'est rendue compte qu'en s'en remettant aux souverains, elle se mettait sous leur dépendance. Donc avec la congrégation dite de la propagande, un mot latin malheureux effectivement aujourd'hui, disons la propagation de la foi en 1622, il s'agissait d'atteindre deux buts. Le premier, c'est de créer partout où les missionnaires s'installeraient des églises indigènes, donc avec un clergé indigène, c'était le but numéro un. Et le second, c'était de prendre son indépendance vis-à-vis des monarchies, pour ne plus être sous leur tutelle et pouvoir notamment étendre éventuellement le catholicisme dans des zones qui n'étaient pas du tout des zones colonisées, comme la Chine ou le Japon.
Oui. Et puis alors aussi de créer ce qu'on appelait enfin des espèces de villages créés par les missionnaires en Amérique latine, les missions du Paraguay, d'Argentine ou du Brésil.
Votre éminence, le père Gabriel, de la mission de San Carlos.
Où est-ce, au juste?
C'est ici, votre éminence, en amont des chutes et donc en territoire espagnol.
Ah non, et il s'agit d'un territoire naguère espagnol, mon père, maintenant portugais.
Pourtant, les missions demeurent sous la protection de l'Église. En aval des chutes, la jungle, s'il faut vraiment la diviser, peut bien être répartie entre Espagne et Portugal, comme vous l'avez concédé. Mais en réalité, en amont des chutes, on entre dans le domaine de Dieu et des Guaranis. Il n'y a personne d'autre. Et devant qui fuit-il? devant nous. C'est-à-dire qu'il fuit la servitude.
C'est invention pure.
C'est vrai, votre éminence. Il est bien connu que les Espagnols,
votre éminence,
esclavagistes,
votre éminence,
attaquent nos missions.
C'est absurde. C'est absurde, votre éminence. Dans les territoires gouvernés par l'Espagne, il n'y a pas d'esclavage.
Mais oui, il a raison.
Mais si en territoire espagnol, nous dirigeons nos plantations selon la stricte observance des lois espagnoles et des préceptes de l'Église. Vous mentez!
C'était un extrait du très beau film de Roland Joffé, Mission, l'histoire de ce qu'on appelait aussi, je crois, Claude Prudhomme, une réduction, les missions chrétiennes en Amérique latine, et avec des conflits en permanence, puisqu'elles étaient, ces missions, sous l'autorité du Vatican, en conflit permanent avec les puissances coloniales de l'époque, en l'occurrence l'Espagne, accusée de pratiquer encore, ce dont se défendent les Espagnols, l'esclavage.
Alors, elles sont justement le résumé de cette contradiction fondamentale entre les visées de la colonisation, qui est d'abord d'exploitation et économique, et puis la christianisation. Et les jésuites, ne voyant pas comment s'en sortir, à la suite aussi d'ailleurs de certains dominicains, comme Las Casas, ont pensé qu'ils allaient pouvoir créer une sorte d'espace qui serait un espace hors contrôle colonial, leur permettant d'avoir pleine autorité sur des communautés indiennes. Du coup, ils ont créé ces fameux villages dits « réduction d'Indiens », notamment dans la zone du Paraguay, où l'activité des Indiens était faite entièrement sous l'autorité des jésuites. Je crois qu'en même temps, il ne faut pas trop idéaliser ce modèle. Il faut bien se rendre compte, quand on regarde les textes, que le type d'existence que menaient ces Indiens sous l'autorité de l'Église était sans doute nettement préférable, évidemment, à la colonisation, notamment par les possibilités culturelles, scolaires et autres, mais que l'autorité était extrêmement ferme et que l'obligation...
Il passait d'une autorité à l'autre, c'est ce que vous dites d'ailleurs, le président.
Oui, avec quand même, bien sûr...
Il valait mieux celle de l'Église.
Sans aucun doute.
Parce qu'il y avait la protection. Et alors... Cela dit, bon, elles vont disparaître avec notamment la disparition, l'interdiction même de la Compagnie de Jésus au XVIIIe siècle dans plusieurs pays. Et puis au XIXe siècle, après un temps, la colonisation va reprendre et là on va retrouver les puissances coloniales s'appuyer là encore sur les missions pour permettre, pour favoriser, pour justifier aussi leurs entreprises coloniales. Pourquoi s'appuyait-on sur les missions justement? Pourquoi un pays laïque, par exemple comme la France, s'appuyait sur des missionnaires qui étaient déjà présents, peut-être parce qu'ils étaient justement déjà présents dans les pays à coloniser?
En partie pour des raisons idéologiques, parce que le fameux objectif de la civilisation semblait commun aux uns et aux autres. Donc les missionnaires pouvaient très bien entrer dans ce plan de civilisation, au moins dans un premier temps, surtout quand on a une vision un petit peu progressive de l'évolution des populations, comme elle est très répandue à l'époque. Un peu de religion, à un moment donné, même pour des gens qui ne sont pas croyants, ça paraît une bonne solution, en attendant qu'éventuellement ils arrivent à mieux. Et puis, du côté des missionnaires, ça semblait évidemment leur donner les moyens dont ils rêvaient pour pouvoir développer librement leurs œuvres, notamment leurs œuvres scolaires. Donc c'est un peu par ce biais, notamment de la scolarisation, que l'association s'est faite. Et il faut bien reconnaître, là, tous les rapports sont dans le même sens, qu'un missionnaire, ça ne coûte rien, c'est d'une très grande efficacité, c'est stable. Quand il est catholique, il est célibataire. Donc, du point de vue de la rentabilité même coloniale, le rapport qualité-prix, si j'ose dire, est maximum.
Par exemple, au Congo, l'éducation était entièrement assurée par des missionnaires.
Alors, dans le cas du Congo belge, notamment, il y a, même des accords au sommet, d'État à État, avec le Saint-Siège, c'est même un quasi-monopole des missionnaires.
Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces écoles, Claude Prudhomme, on va retrouver tous les cadres des futurs combats anticoloniaux. La plupart des gens qui apprenaient à écrire, à lire dans des écoles de missionnaires, apprenaient en même temps le chemin de la décolonisation.
Tous les leaders de la décolonisation ne pouvaient sortir quasiment que des écoles missionnaires. C'était les seuls qui existaient, y compris Mandela, qui sort d'une école missionnaire presbytérienne au départ. C'est aussi la preuve que les choses sont pas si simples. C'est-à-dire que cette école missionnaire est à la fois une école qui, de fait, entre dans les intérêts de la colonisation, mais qui ne se soumet pas complètement. Il y a une part qui est faite aux langues indigènes, d'ailleurs, souvent. Et puis, il y a une préoccupation, surtout des populations qui n'étaient pas forcément premières dans l'idéologie coloniale.
Alors, vous avez parlé, Claude Prudhomme, d'école presbytérienne. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des protestants, mais qu'ils ont joué un rôle. Il y a eu des missions protestantes. Cela dit, vous le rappelez, elles ont été plus tardives que les missions catholiques. Elles sont arrivées plus tard, au 18e seulement.
Pour des raisons théologiques, c'est que, avec une compréhension de la prédestination de Calvin un peu étroite, on considérait que si Dieu n'avait pas voulu que le christianisme arrive jusqu'à eux, c'est qu'il avait des raisons qu'on ignorait. Et puis à la fin du XVIIIe siècle essentiellement, un peu les mêmes mouvements qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les pentecôtistes, dont on parle tant dans les médias et ailleurs, et qu'on va se reprendre partout, il y a des mouvements dits de réveil, c'est-à-dire de gens qui considèrent qu'ils se sont reconvertis une deuxième fois, qu'ils ont rencontré Dieu, et que du coup, cette rencontre de Dieu implique de l'annoncer à tout le monde, y compris aux païens. Et c'est un peu dans ce type de groupe que se sont développées des sociétés missionnaires à la fin du XVIIIe siècle, notamment en Angleterre et puis aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et c'est devenu des missions extrêmement importantes au début du XIXe siècle.
Et où se sont recrutés des missionnaires dont on se souvient rarement qu'ils étaient des missionnaires. Livingstone était explorateur et missionnaire.
On peut dire d'abord missionnaire, explorateur au nom de pour la mission.
Schweitzer était médecin.
Et d'abord missionnaire.
Et missionnaire protestant également, effectivement. Alors, justement, cela dit, à l'époque, ces gens-là servent plutôt à justifier, là encore, la colonisation. On s'en sert, comme Charles Foucault, par exemple, on s'en sert pour dire, ben voilà, c'est bien la preuve, on apporte la paix, le christianisme, la civilisation à ces gens-là. Et ça a duré un certain temps. Au fond, c'est à partir de quand qu'on va voir l'Église brusquement changer, si je puis dire, de camp, c'est-à-dire devenir hostile à la colonisation.
Je pense qu'il faut voir ce processus comme en deux temps. Dans un premier temps, il y a association des deux mouvements, parce que les uns et les autres ont le sentiment que finalement, ils y trouvent leur intérêt.
Vous voulez dire colonisation et
émission, oui. Et que, notamment, pour un certain nombre de missionnaires, le discours officiel, finalement, on entre un peu dans les voies de la Providence. La colonisation est au service des voies de la Providence. Et puis, progressivement, l'autre logique est la logique fondamentale des missions, qui est de créer des églises indigènes. Leur font découvrir à un moment donné que l'existence et l'avenir de ces églises indigènes, l'indigénisation, comme on disait alors, implique un détachement progressif. Et parfois sous la pression des missionnaires, souvent sous la pression des autorités extérieures qui sont peut-être quelquefois plus critiques parce que moins liées au terrain, il y a une volonté de plus en plus explicite de détacher les deux mouvements. Ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, qui a eu des effets terribles, puisque les indigènes ont pu voir des missionnaires quasiment se faire la guerre quand ils étaient allemands et français, en Afrique, par exemple. Oui. Donc les autorités ont pris conscience qu'il fallait marquer plus nettement, progressivement, que les deux mouvements n'étaient pas liés, même s'ils avaient été associés par l'histoire.
Et on va voir le Vatican lui-même se montrer de plus en plus hostile à la politique d'expansion coloniale, comme ce pape Pie XI, condamnant à mots couverts la guerre italienne contre l'Éthiopie et son annexion dans un nouvel empire colonial, à une époque où Mussolini annonçait la victoire de l'Italie en Éthiopie.
Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita, l'Etiopia è italiana.
Accogliamo nel nostro cuore paterno la preoccupazione di tanti nostri figli.
Nous ressentons dans notre cœur le désarroi de tant de nos fils. Et nous demandons à tous les prêtres, les religieux et les fidèles d'élever la plus instante prière pour le maintien de la paix dans la justice et la charité.
Et c'était Pie XI condamnant à la fin des années 30 le nationalisme, vous le dites, l'expansionnisme qui peuvent conduire à la guerre, mais aussi, à mots couverts, d'abord, puis de plus en plus explicitement, la décolonisation. On verra même son successeur, Pie XII, en 1955, Pie XII, qui était tout sauf un progressiste, va condamner lui aussi, alors là, cette fois-ci, ouvertement, la colonisation et se mettre dans le camp, se montrer favorable à l'émancipation des peuples colonisés. Pourquoi cet aggiornamento, c'est ce changement d'attitude brutal, Claude Prudhomme?
Du point de vue des intéressés, c'est pas un changement d'attitude. C'est simplement que le contexte historique a changé, les conditions sont différentes, on poursuit toujours le même objectif, le développement des églises indigènes, une église chrétienne, protestante ou catholique d'ailleurs, quelles que soient ces églises, qui doivent être universelles. Cette universalité, cette indigénisation implique que l'on entre dans le processus historique et que l'on reconnaisse notamment ce besoin, cette aspiration des populations, notamment des chrétiens, catholiques ou protestants, à l'émancipation. Donc pour eux, il n'y a aucun changement de cours. Évidemment, ça a été perçu souvent, notamment dans les sociétés chrétiennes des peuples qui colonisaient, des colonisateurs, comme un grand tournant, voire une trahison. Mais je pense pas que de leur point de vue, il y a un changement de cap.
Oui, parce que c'était quand même un choix difficile. Imaginons un chrétien pied noir, voire le clergé, parce que dans tous les pays pays colonisés du monde, on a vu les hiérarchies religieuses, que ce soit des missionnaires, des évêques, comme Monseigneur Duval en Algérie, prendre le parti, en l'occurrence pour l'Algérie, de l'Algérie algérienne. Ça a énormément choqué. On surnommait même le pauvre Monseigneur Duval, on l'appelait Mohamed Duval, les pieds noirs appelés comme ça. Mais il faut pas oublier non plus, je suppose que vous le dites d'ailleurs, Claude Prudhomme, que au Vatican, on sait bien que l'immense majorité des chrétiens à ce moment-là, et grâce d'ailleurs à l'œuvre des missions, se trouve dans le tiers-monde qui se sent solidaire justement de ces luttes contre la colonisation.
Absolument, ils savent tout à fait que l'avenir de l'Église est en grande partie dans ces pays, en Afrique et également en Asie, et que donc il n'y a pas de choix. Et là-dessus, il n'y a eu d'ailleurs aucune hésitation. Le seul problème étant qu'il faut faire des choix politiques sur le terrain, et c'est là que les Églises sont beaucoup plus prudentes et qu'il y a des lignes de partage dans les Églises, parce que la plupart de ces mouvements nationalistes sont très influencés par des mouvements marxistes.
Alors là, il n'était pas question de s'associer avec eux.
Alors, quelques groupes protestants, pas majoritaires d'ailleurs, ont parfois fait des alliances, mais les églises protestantes ont aussi resté très prudentes. Évidemment, pour le catholicisme, il n'était pas question de passer des alliances de ce type-là. D'où des tensions internes entre ceux qui pensaient qu'il fallait quand même aller jusque-là et d'autres qui le refusaient.
Malgré cette évolution, Claude Prudhomme, de l'église en faveur de la décolonisation, ça a été très mal vu. Le mot mission, vous nous disiez avant l'émission, le mot mission était très mal porté. On osait à peine le prononcer comme si elle était vraiment coupable, elles étaient coupables de la colonisation.
Oui, parce que je crois que c'est lié à l'époque de la décolonisation. Bon, il a fallu aussi régler ses comptes pour un certain nombre de gens, et je le comprends d'ailleurs quelquefois, parce que ce passé était quelquefois très lourd. Et le mot mission était devenu synonyme d'opération néocoloniale, ou coloniale, puis néocoloniale, et donc il était quasiment inutilisable. Alors on essayait des euphémismes, et puis très curieusement, ou pas curieusement d'ailleurs, je ne sais pas, on voit que depuis quelques années, ce mot mission devient un mot quasiment de notre langage courant, il est sécularisé lui aussi. Qui n'a pas entendu parler de mission de l'ONU, de mission humanitaire, etc. Oui. Sans que je pense pas que tous les problèmes soient levés, puisqu'on pourrait se demander si la question de l'ingérence humanitaire, sous une autre forme, ne repose pas la question de la mission telle qu'elle était évoquée précédemment.
Merci Claude Prudhomme. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre « Mission chrétienne et colonisation » qui vient de paraître aux éditions du CERF. Vous êtes également l'auteur d'une histoire des chrétiens publiée aux éditions du Centurion. À lire également « La mission jésuite du Brésil » dont les lettres et documents d'archives viennent d'être édités et traduits par Jean-Claude Laborie en collaboration avec Anne Lima est publié aux éditions Chandaigne. Ces références, toutes ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari et Sébastien Royer, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Kobilac.